Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
Nous avions dans les toutes premières éditions de Parentalité Mon Amour abordé le sujet des premiers jours de l'enfant dans la famille. Plus de 3 ans et demi après ce premier opus et plus de 15 thématiques abordées, nous allons nous pencher de nouveau sur l'arrivée de l'enfant dans la famille. Cette fois-ci, nous verrons aussi comment, dès l'annonce de la nouvelle de la grossesse et même avant, l'on peut devenir parent. À quel moment la parentalité se matérialise-t-elle? Quelle structure, quel professionnel existe-t-il sur le territoire pour épauler les futurs parents? Comment les professionnels peuvent-ils accompagner des situations particulières où l'arrivée de l'enfant crée des craintes ou des tensions? Pour échanger sur ces questions, je reçois Martine Fauché, médecin de PMI au département de la Drôme pour le CMS Pavigne, et Anne-Christine Barbecot, accompagnante à la naissance. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, je vous propose de démarrer cette émission en écoutant une réaction de la personne dont on aura le portrait aujourd'hui, Séverine Barneron, qui est responsable unité parentalité et direction des familles à Valence Roman Aglo. Elle a réagi sur un outil utilisé justement par les parents qui s'appelle l'aptonomie.
L'aptonomie, c'est une conscience de ce qui se passe pour la maman vis-à-vis du papa, justement, pour essayer d'aider le papa à sentir le bébé venir. Il y a par exemple un tout premier geste où le papa approche la main du ventre de la maman et le bébé vient à la main du papa et c'est une première conscience du bébé, une première communication.
Rebonjour à toutes les deux, Martine Fauché et Anne-Christine Barbecot. Je vais commencer par une petite réaction à ce que vient de dire Séverine Barneron sur l'aptonomie. Peut-être avec vous, Anne-Christine Barbecot, on voit bien là un outil, un premier outil. Vous m'aviez dit hors micro que c'est un outil parmi tant d'autres. Vous êtes donc accompagnante à la naissance. Peut-être une petite réaction sur l'aptonomie.
Oui, bah, l'aptonomie, je trouve que c'est un très bel outil pour entrer en contact avec son bébé, en particulier pour le papa. Alors, c'est vrai qu'il existe d'autres outils. Alors, j'utilise en particulier la sophrologie. Je pense que chaque couple doit trouver celui qui lui correspond le plus. L'idée de tous ces outils, c'est quand même de remettre de la conscience dans le vécu, de remettre le couple au cœur de l'expérience, en fait, de cette grossesse et de cet accouchement.
Alors, je le disais en introduction, à quel moment la parentalité se matérialise-t-elle? Est-ce qu'on peut dire qu'elle existe avant l'annonce de l'arrivée future de l'enfant, c'est-à-dire avant même la grossesse, la parentalité?
Moi, je pense que oui, c'est-à-dire que dès que l'idée de l'enfant est dans l'esprit des parents, eh bien, il existe. Alors, c'est pas l'enfant qui va naître, mais c'est un enfant rêvé, désiré, imaginé. Donc, il y a déjà une forme, en quelque sorte, de parentalité.
Alors, Martine Fauché, on parlera tout à l'heure de la PMI, de là où vous travaillez exactement. Une petite réaction peut-être par rapport à ça, à cette parentalité. Vous la situez où? Vous, elle arrive quand dans la vie des jeunes couples?
Je pense qu'elle arrive dès qu'il y a un début de projet d'enfant. Déjà, quand il y a une projection dans l'idée de faire famille, quel que soit le type de famille, la notion de parentalité arrive. C'est très variable. Après, quand on rencontre les parents et qu'on leur dit et ce bébé, en fait, la plupart du temps, moi, je n'emploie pas le mot désiré parce que désiré, c'est un petit peu, c'est pas très clair. À la fois, il y a des craintes, il y a le côté projet d'enfant, il y a toutes les craintes qui vont avec. Il y a est-ce que c'est le bon moment? Il y a d'autres, plein de questions qui s'entrecroisent, qui fait que c'est plus dans l'idée de projet, ce qu'on se projette sur cet enfant, que sur l'idée de est-ce que on l'a désiré. Et du coup, je pense que l'idée d'enfant rêver, matérialiser, projeter, vous rend parent.
Alors, Anne-Christine Barbeco, vous êtes là donc après dans le projet, dans l'accompagnement. À quel moment on vient vous voir, on vous sollicite, les parents, à quel moment ils ont besoin de l'accompagnement que vous avez réalisé et comment se matérialise-t-il, pardon?
Alors, cet accompagnement, il peut intervenir très tôt, quasiment dès l'annonce, parce que même quand on a projeté, désiré, imaginé cet enfant, la réaction est parfois très ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a de la joie, mais aussi de la tristesse, parfois de la colère. On se rend compte tout d'un coup du poids des responsabilités qui vont tomber dessus. Parfois, on se pose des questions sur le monde dans lequel on va mettre cet enfant au monde, en particulier avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, donc... Tout ça, c'est difficile à gérer pour une maman et un papa qui ont souhaité cet enfant, mais qui ont des réactions qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils peuvent arriver très tôt. Et certains arrivent aussi beaucoup plus tard sur des questionnements plus liés à l'accouchement, où là, eh bien, je les aide à travailler sur leur ressenti corporel, essentiellement, pour que cet accouchement se passe comme ils le souhaitent. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'accouchement idéal. Chacun doit vivre le sien, en fait.
Alors, on sait que c'est une belle nouvelle. Parfois, je le disais, il peut y avoir des craintes, des tensions. Martine Fauché l'a redit. Anne-Christine Barbeco, est-ce que ça vous est arrivé de voir naître des parents, c'est-à-dire d'avoir des gens pour qui il y avait peut-être plus de questions que de solutions, et par l'accompagnement, de les voir changer tout au long de cet accompagnement?
Oui, complètement. C'est-à-dire parfois, ce bébé, il arrive un peu par surprise et la connexion peut être plus ou moins longue, plus ou moins difficile. Et là, je pense qu'il faut vraiment revenir à ses sensations, revenir au corps, revenir à ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et à travers ce chemin, la maman et le papa arrive à se projeter, à se connecter à cet enfant. Et oui, il y a de très beaux chemins que j'ai accompagnés.
Alors, vous avez parlé de la situation sanitaire. Comment ne pas en parler aujourd'hui, ne serait-ce que dans les conditions dans lesquelles nous réalisons cette émission, ce Parentalité Mon Amour, la 18e. Si l'on avait dit que ça serait dans ces conditions-là, peut-être qu'on ne l'aurait pas cru. Comment ça s'est passé pour vous, justement, l'accompagnement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous retournez, Anne-Christine Barbeco, à la maternité, accompagner les parents? On imagine que, pour des raisons sanitaires, vous ne pouvez pas être présente.
Non, pour l'instant, non. J'ai eu la grande joie et le grand honneur d'accompagner un accouchement à domicile la semaine dernière. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'à la maternité, il y a encore des protocoles importants. Voilà, j'espère en même temps que tout l'accompagnement que j'offre aux parents leur permet ce jour-là d'être en confiance et en conscience pour cet accouchement. Et je suis sûre que l'équipe de la maternité les soutient complètement aussi dans leur projet. Donc voilà, malgré tout, l'idée c'est quand même d'accueillir ce qui lui vient et d'accompagner notre enfant quoi qu'il arrive. Voilà, moi j'essaie de transmettre ça en fait pendant tous ces mois de grossesse, c'est-à-dire toujours rester connecté à son bébé quoi qu'il arrive. Et là, c'est vrai que le quoi qu'il arrive, il est assez assez important.
Alors, on a la maman qui vit sa grossesse, le conjoint, la personne qui se trouve à côté de cette maman. Dans l'accompagnement, elle y vient de suite avec vous. Il faut parfois la faire venir.
Alors, voilà, ça dépend des partenaires. Il y a des partenaires qui sont tout de suite très impliqués, très intéressés, voilà, et qui viennent tout de suite. Il y en a d'autres... Bah, je les oblige un peu au départ, je les contrains un petit peu. Voilà, parce que c'est important que la personne qui sera à côté de la maman le jour de l'accouchement, bah, que cette personne, elle ait confiance dans les processus physiologiques. Et pour avoir cette confiance-là, il faut qu'elle les connaisse. Il ne faut pas qu'elle soit surprise de ce qui va se passer. Donc, il y a des moments clés dans l'accompagnement où le partenaire est indispensable.
Alors, Anne-Christine Barbeco, je rappelle que vous êtes sur Radio Méga aussi avec des chroniques régulièrement le vendredi et des petits points que vous nous, des petits chemins que vous nous donnez à la radio. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter les podcasts de ces chroniques. Je vous propose, avant de retrouver le portrait de Séverine Barneron, d'écouter The Saxophone avec New Taboo. On se retrouve tout de suite après.
I thought I wanted soft life, and I do. I thought I'd feel alive, and I do. Run my hand down the marble. I've come too far to change. What makes sense to me, I can't explain. Watch my silk flow and marvel. I'm looking to uncover a new taboo. Do you know anything I should do? I'm looking to uncover a new that you haven't gotten used to. Now that I've had everything, I'm fine. Funny, I can't even remember a different time. I always knew I could have. You haven't gotten used to. Yes, it's really better at the end. I see you're having trouble getting started again. I used to find that hard to just know what to do. Looking to uncover a new taboo. Do you know anything I shouldn't do? I'm looking to uncover a new taboo. One that you haven't gotten used to. One that you haven't gotten used to. I'm looking to uncover a new taboo. To uncover a new taboo. Now that you move the way I tell you to. I thought I wanted soft light, and I do.
De retour dans Parentalité, Mon Amour, votre magazine sur la parentalité qui est sur Radio Méga depuis quelques temps maintenant, mais aussi sur les autres radios drômoises. Et vous pouvez retrouver l'ensemble et l'intégralité de ces émissions sur caf.fr et udaf.fr, ainsi que beaucoup d'informations qui peuvent vous être très utiles en ce moment, dans cette période si singulière, sur ces deux sites dont je viens de parler. Je vous propose de découvrir tout de suite Séverine Barneron, qui est responsable Unité parentalité à la direction des familles pour Valence Roman Agglomération. Elle était à mon micro avant confinement et elle nous parle notamment du guichet unique, cet endroit où quand on a un projet d'enfant ou en tout cas une grossesse déclarée, on peut aller pour se renseigner sur la suite. On l'écoute tout de suite.
Séverine Barneron, responsable de l'unité parentalité à Valence Roman Aglo. La grossesse est là, on a 9 mois pour se faire l'idée qu'on va avoir un bébé. Et en effet, au début, on est vraiment dans les préoccupations de bah, « ça y est, je vais être pour la première fois maman ». Et après, juste après, la préoccupation de « comment je vais l'élever ? Comment ça va se passer avec mon chéri ? Comment ça va se passer quand je devrais reprendre le travail ? Qui va prendre en charge mon enfant ? Qui va s'en occuper aussi bien que moi ? À qui je vais pouvoir faire confiance ?» Et là, il faut s'y prendre assez rapidement. Le guichet unique va nous permettre à la fois de donner de l'information sur tout ce qui existe sur le territoire, donc c'est quand même une information très large. Généralement, les rendez-vous durent à peu près une heure, où on présente tout ce qui peut exister pour le tout petit. Donc souvent, les parents viennent par la porte d'entrée du mode de garde, donc ils ont besoin d'une place en crèche, souvent avec un fantasme déjà de « voilà, ça va être mieux la crèche plutôt qu'une assistante maternelle », et finalement, de reparler du projet, de présenter tout ce qui peut exister. Il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas tout ce qui peut exister au niveau petite enfance, qui ne connaissent pas le multi-accueil familial, par exemple, qui est un entre-deux entre la crèche et les assistantes maternelles indépendantes. Le relais assistante maternelle qui donne des tonnes de réponses, qui apporte beaucoup d'informations sur tout ce qui peut concerner l'assistante maternelle. Voilà, le guichet unique va vraiment donner toutes les premières informations vers aussi, évidemment, les lieux d'accueil enfants-parents, donc qui ne sont pas des modes de garde. Et au départ, les familles très rarement connaissent déjà cet accueil-là, qui est un accueil gratuit, anonyme, qui permet aux familles de sortir de chez eux. Certains n'ont pas forcément une expérience très heureuse des congés parentaux. Et ça peut vraiment aider à accompagner, à sortir de l'isolement, à partager ses propres inquiétudes, à sympathiser des fois avec d'autres parents, à voir son enfant se développer à travers des activités qu'ils vont trouver sur place. C'est vraiment le parent qui va accompagner tout ça. En termes de coûts, je dirais qu'un multi-accueil est souvent plus favorable pour une famille à revenus modestes. Les multi-accueils fournissent les repas, fournissent les couches, et donc généralement c'est assez avantageux pour ces familles-là. Pour les familles à revenus aisés, je dirais que ça dépend un peu des situations, mais globalement, les assistantes maternelles peuvent être plus intéressantes en termes de tarifs pour les familles. Mais là, vraiment, c'est schématisé parce que ça peut, faut vraiment aller voir d'une assistante maternelle à l'autre et c'est pas que le coût en fait, qui va compter. Le guichet unique va vous calculer le tarif à l'heure dans un multi-accueil et vous faire aussi une simulation chez une assistante maternelle. Quand le parent est inscrit pour une place en multi-accueil, donc il y a des commissions d'attribution qui vont se réunir pour attribuer des places en fonction de l'ancienneté de la demande, en fonction du domicile du parent. Ils ne vont pas forcément demander tous les mêmes structures, tous les mêmes assistantes maternelles. Et en fonction voilà, de la demande, on va ou pas pouvoir attribuer une place dans les multi-accueils, dans les relais assistantes maternelles, dans les multi-accueils familiaux. Voilà. L'arrivée d'un enfant dans la famille, c'est un bouleversement. C'est te dire qu'en fait, tu ne savais rien. Tu ne savais rien en tant que parent. Et c'est l'enfant qui va faire le parent.
De retour dans Parentalité, Mon Amour, Martine Fauché est avec nous. Vous êtes, je le disais en introduction, médecin de PMI au département de la Drôme, CMS Pavigny. Alors là, 2, 3, 6 lettres que je n'aime pas donner sans expliquer ce que c'est. Martine Fauché, d'abord, dites-nous ce qu'est la PMI, s'il vous plaît.
Donc, au départ, la PMI, donc ça veut dire protection maternelle et infantile, c'est un service qui dépend des départements, qui existe dans tous les départements de France et qui est né d'une loi de 1945. Parce qu'il y avait évidemment, après la guerre, beaucoup de modifications et entre autres beaucoup de mortalité chez les jeunes mamans et beaucoup de mortalité infantile.
Alors,
ces mots de protection maternelle et infantile me gênaient un petit peu au départ parce que le mot protection me troublait. Mais finalement, la première des protections, c'est la prévention. Et donc, dans ce sens-là, la PMI est vraiment très, très importante, hein, un fer de lance. Et en plus, la première des protections, ce sont les parents. Donc, on travaille vraiment en direction des parents. Le deuxième mot, maternel, c'est ça pourrait être gênant parce qu'on aurait l'impression d'oublier en route les papas, mais ça me conforte quand même parce que ça a le côté maternant, pouponnant.
Enveloppant.
Vous voyez un petit peu, ouais. Voilà, enveloppant. Voilà. Et donc, du coup, prévention maternelle et infantile, la protection, vous voyez, je me suis même trompée de mot. La protection maternelle et infantile, c'est bien dans la conception du proverbe africain qui dit qu'un enfant naît dans un village. Voilà.
Alors,
nous essayons de faire famille, de faire village, de faire de la même façon qu'Anne-Christine, d'accompagner ces couples dans leurs différences pour accueillir ceux ou ces enfants à naître et qui arrivent dans notre monde.
Alors, comment vous les sentez depuis le début de votre carrière, ces parents? Est-ce que vous sentez des évolutions dans la manière d'être parent depuis que vous avez commencé et puis jusqu'à aujourd'hui dans votre carrière?
Ce qui a beaucoup changé, c'est la place des papas, entre autres. Hein. Au début, aux consultations, on ne voyait arriver que des mamans. Donc, après, on a pu arriver, voir arriver des papas, soit en accompagnant la maman, soit même avec des petits papiers où ils avaient pris note. Ne pas oublier les vaccins, voilà. Et si on posait une question au papa, c'était « Attendez, je vais téléphoner à mon épouse, je vais vous dire qu'est-ce qu'il mange, voilà. » Maintenant, les places sont bien plus partagées. On a vraiment des consultations soit avec les deux parents, soit on a des consultations avec le papa aussi aisément, je dirais, presque qu'avec les mamans.
Alors, vous avez beaucoup évolué, donc c'est une réalité, les papas sont plus là, merci de le préciser. L'ensemble des conjoints aussi, j'imagine, les mamans qui sont conjoints, comment ça se passe avec les nouvelles formes de famille, l'homoparentalité?
En consultation, ça m'est arrivé plusieurs fois, de voir arriver des couples de mamans. Je n'ai jamais vu en consultation de couples de papas. Donc, ça se passe comme une consultation normale, je veux dire, parce que c'est normal. Et par contre, assez souvent, disent, bon, quand elles parlent, elles disent « maman une telle » et « maman une telle ». Parce que, bon, voilà. Hein. Mais j'ai l'impression que ça ne trouble personne, ni les professionnels, ni chacun dans sa place. Parce que ce qui est important pour l'enfant, c'est d'avoir des parents.
C'est trois personnes.
Un parent ou des parents.
C'est les trois personnes avec les deux personnes aimantes, c'est ça? Et dont une est plus petite, c'est l'enfant, le troisième.
Voilà, exactement. C'est que chacun ait une place. Et l'important, c'est que la place de chacun soit reconnue.
Alors,
donc, une fois que chacun a sa place et que la place est reconnue, Voilà.
Quels sont les outils que vous avez au sein de la PMI et les professionnels qui gravitent autour de la PMI pour accueillir justement tous ces parents?
Donc, en PMI, là aussi, on accueille les parents très tôt, ne serait-ce que parce qu'on a des sages-femmes qui rencontrent les familles d'abord en amont, hein, dans le projet d'enfant, dans la contraception, voilà. Ensuite, dans l'enfant qui va venir, la sage-femme de PMI peut faire des consultations, des visites à domicile. Donc ça peut être intéressant pour des familles où c'est plus difficile de se rendre à une consultation pour des raisons soit de psychologique, voilà, d'hésitation, soit pour des raisons médicales, hein, si la maman doit se reposer. Et ensuite, donc, nous avons aussi des infirmières puéricultrices de PMI qui rencontrent les mamans et les papas soit en consultation, soit au domicile. Et nous avons aussi des consultations pour enfants 0 à 6 ans. On essaie d'être vraiment à l'écoute des parents, à l'endroit où ils sont. Et notre premier rôle, je dirais, c'est d'aider à cette rencontre fabuleuse qu'il y a entre les parents et les enfants et montrer à chacun toutes ces compétences, que ce soit les parents et les enfants, les compétences qu'ont les parents, et faire bien mettre en relief toutes les compétences qu'a ce tout petit pour adapter, pour appeler, pour capter l'adulte qui est en face de lui.
Alors, est-ce qu'on doit se faire confiance? On l'avait dit avec Anne-Christine Barbecot dans une précédente chronique. Est-ce que les parents doivent se faire confiance aussi?
Ils doivent faire confiance dans leur capacité, dans leurs compétences et dans les capacités de leur bébé à s'adapter. De toute façon, on n'est pas parfait, heureusement.
Merci.
Ni vous, tant pis. Ni moi, bien sûr, ni les parents. Et l'important, c'est de savoir que il faut être suffisamment adapté pour que ça marche. Et ce sont toujours des interactions, donc on va s'adapter et on arrive même à s'adapter avec un masque.
Voilà,
donc,
on peut s'adapter.
Je disais ça par rapport aux consultations avec un masque.
Avec la situation.
Je disais ça parce que
sanitaire.
Parce que actuellement, même quand je me suis bien rendu compte que les enfants arrivent à voir qu'on leur sourit avec les yeux, même quand on a un masque. Et donc, c'est vrai qu'ils sont particulièrement performants.
Alors, le sourire avec les yeux, ça, c'est une belle conclusion parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Effectivement, le sourire avec les yeux, on peut tous le faire dans la rue d'ailleurs. Si le nourrisson le comprend, allons-y, pratiquons ce sourire avec les yeux. Je vous propose d'écouter dans Parentalité Mon Amour Bonjeziu Mambala avec Naziwe Yekelele tout de suite.
Yeah.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Eh bien, merci beaucoup Martine Fauché. Vous êtes, je le rappelle, médecin de PMI, protection maternelle infantile. Et merci beaucoup Anne-Christine Barbeco. Vous êtes accompagnante à la naissance. Peut-être un dernier mot pour les parents, tiens, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur diriez à ceux où le projet, ou en tout cas l'idée d'enfant, ou peut-être la maternité vient d'arriver là dans les moments? Qu'est-ce que vous leur diriez, sans parler de conseils, mais quelques mots pour eux tout de suite, Martine Fauché.
Je pense que l'enfant a un regard qui est magique et qui est un de ses meilleurs outils pour accrocher l'adulte. Quand un enfant vous dévore des yeux, vous êtes vraiment plus que le centre de la terre. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, il a d'abord ce regard qui vous capte avec ses grands yeux curieux qui s'ouvrent sur la vie. Il a sa façon de s'agripper à vous pour essayer de se lever dans l'épaule. Et il y a aussi les pleurs. Il ne faut pas avoir peur des pleurs de l'enfant, parce que bien sûr, il peut pleurer parce qu'il est malade, bien sûr, il peut pleurer parce qu'il a de l'inconfort, mais une des grandes raisons pour lesquelles un enfant pleure, c'est qu'il sait qu'il a des oreilles pour l'écouter. Donc, essayez de trouver une réponse adaptée aux pleurs de l'enfant. On essaye de le calmer, ne pas hésiter à le porter quand on a envie et qu'on est disponible. Hein, ce n'est pas une obligation, mais ce serait dommage de s'en priver quand on le peut et qu'on en a envie, parce que l'enfant se sent en sécurité dans les bras des parents. Ça ne peut pas du tout le rendre capricieux. Et après, bon, l'enfant peut continuer éventuellement, alors que tout va bien, et à pleurer. Ça peut être simplement qu'il vous dit « Ouh, ouh, papa, maman, je suis là ». Et de toute façon, il a une façon de vous regarder, vous ne risquez pas de l'oublier.
On va rester avec la magie de Martine Fauché. Anne-Christine Barbacou, peut-être un petit mot pour les parents. Ils vous ont le vendredi en chronique, mais un petit mot que vous laisseriez dans cette émission.
Non, moi, je dirais que pour vivre ce processus du devenir parent avant la naissance, je les invite à mettre de la conscience en fait sur ces événements, et pour ça de choisir un accompagnement différent et complémentaire à celui de la médecine, qui va pouvoir les mettre sur ce chemin en fait de la parentalité.
Eh bien, merci à toutes les deux. On retrouvera Parentalité Mon Amour à la rentrée de septembre avec, j'espère, des invités sur le plateau. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission dans les conditions que l'on connaît, qui sont mondiales. Alors, ce n'est pas une exception à Radio Méga. Je vous souhaite une très bonne continuation. Retrouvez donc Parentalité Mon Amour à la rentrée de septembre. Et bien entendu, vous pouvez réécouter l'ensemble des contenus des 18 émissions passées sur le site internet de Radio Méga, sur l'ensemble des radios partenaires et sur caf.fr et udaf.fr. Je vous souhaite un très bon été à tous.